Il est 8h.
Notre génération a ensemble à vaincre cette épidémie. Aujourd'hui, nous tenons ensemble. Demain, nous vaincrons ensemble.
Un président qui appelle plus que jamais à jouer collectif. Emmanuel Macron martèle ce mot « ensemble » et trace une perspective à 18 mois de la présidentielle. Nous verrons que pour autant, tout n'est pas réglé. Les catholiques, notamment, ont du mal à imaginer la messe du dimanche et surtout celle de Noël, avec une assemblée limitée à 30 fidèles. Dans ce journal, un bijou français en péril, l'industrie du cinéma secouée par les deux confinements. Ce secteur peut-il s'en remettre? Les films sortiront-ils toujours en salle? Et au fait, comment se déroulent les tournages en ce moment? Ce sera notre dossier. Et puis vous entendrez le coup de gueule testostéroné de Thomas Tuchel du PSG et sa colère contre les journalistes.
Au lendemain de l'allocution du président de la République, les phases qui nous conduisent au déconfinement, la politique de test, d'isolement, de vaccination dans le détail ce matin et la pédagogie. Avec Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement qui répond aux questions de Sonia Mabrouk à 8h15. Bienvenue sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Nous y voilà. À tout juste un mois de Noël, Emmanuel Macron avait hier soir dans sa hotte de quoi redonner le sourire aux commerçants, aux professionnels du cinéma et du théâtre. D'autres métiers devront attendre. Les restaurants, les bars, les salles de sport. Mais l'allègement progressif du confinement est bien sur les rails.
Bonjour Jean-Rémy Baudot.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Jean-Rémy Baudot du service politique d'Europe 1. Au-delà des dates et des annonces, le président trace une perspective avec un appel à une France unie face aux crises.
Oui Mathieu, notamment avec ce mot « ensemble », le président l'a prononcé 11 fois lors de son allocution, presque une fois toutes les deux minutes. Avec les mots « solidaire » et « solidarité », c'était une manière de remercier les Français pour leurs efforts et de tenter surtout de les embarquer pour la suite. L'objectif, c'était de montrer qu'il sait où il va, décrypte un proche d'Emmanuel Macron. Et où il va, c'est au-delà du Covid. Il a esquissé une forme de monde d'après, reconnaît un ministre. De la séquence, Emmanuel Macron dit avoir identifié certaines de nos faiblesses. Il dénonce ainsi une organisation imparfaite, trop de bureaucratie, un manque de souveraineté, parfois aussi pour certaines de nos productions. Fin de citation. En quelques mots, le bilan politique des 10 derniers mois de crise. Mais en filigrane, un nouveau projet politique. Il se projette sur les réformes de la fin du quinquennat, confirme un conseiller historique du président. Qui reconnaît tout de même qu'à 18 mois de la présidentielle, de tels chantiers résonnent surtout comme un programme pour la future élection.
Jean-Rémy Baudot, ce mot « ensemble », c'est pas encore gagné. Hein. L'Église de France, par exemple, ne se contente pas de la jauge de 30 fidèles maximum annoncée hier pour la reprise des messes.
Je me permets de vous faire écouter quelques mots de l'évêque de Nanterre, Mathieu Rouget, qui était en direct sur Europe 1, dans le journal de 7h.
Il y avait depuis quelques jours une sorte de tension entre catholiques, ceux qui se manifestaient, ceux qui n'étaient pas favorables aux manifestations. Et je constate que depuis hier soir, tout le monde est en quelque sorte réconcilié dans un mélange d'incompréhension et de détermination.
Je me tourne vers vous, Louis Dragnel. Bonjour Louis.
Bonjour Mathieu.
On le voit avec cet exemple, tout n'est pas réglé, notamment pour les catholiques.
Ben oui, pour les catholiques privés de messe depuis des semaines, c'est une mesure intolérable. Des catholiques pour qui la messe de la nativité en plus est sacrée. Autre point qui soulève des questions, l'isolement des malades du Covid. L'une des clés d'un déconfinement réussi pour les spécialistes. Emmanuel Macron a dit vouloir un débat démocratique, mais le gouvernement envisage des amendes pour les personnes qui ne respecteraient pas cet isolement. Et c'est un risque que le président a en tête, car les familles modestes n'ont pas une pièce disponible chez eux pour isoler un malade. Dernière préoccupation pour l'Élysée, la vaccination. On sait que pour que ça fonctionne, elle doit être massive. Emmanuel Macron a précisé qu'elle ne serait pas obligatoire et a insisté sur tout ce qu'on sait, mais aussi sur tout ce qu'on ne sait pas. Et on l'a vu dans un sondage BVA pour Europe 1 lundi, 40% des Français y sont opposés. Vous l'aurez compris, le chef de l'État a cherché à montrer qu'il veut éteindre le plus de feux possible, mais son discours n'a pas pour autant apaisé tous les débats.
Louis Dragnel, du service politique d'Europe 1.
Et au passage, vous parliez de départ de feu politique pour le gouvernement. Il y en a d'autres. Les soupçons d'abus de confiance contre le ministre des PME, qui est en première ligne en ce moment, Alain Griset, visé par deux enquêtes après une maladresse, dit-il, un oubli sur sa déclaration de patrimoine. Et puis à l'Assemblée, la défection hier soir de 40 députés de La République En Marche. 30 se sont abstenus, 10 ont voté contre la loi sécurité globale.
Revenons à cet horizon qui se dessine autour des fêtes de fin d'année. Un moment délicat à gérer, pas seulement en France. Écoutez comment le Premier ministre britannique Boris Johnson s'est adressé à ses compatriotes.
Les quatre nations du Royaume-Uni ont convenu que du 23 au 27 décembre, vous pourrez former une bulle de Noël avec deux autres familles. C'est la saison des réjouissances, mais c'est aussi la saison pour être joyeusement prudent.
Être joyeusement prudent grâce à cette bubble sociale de trois familles, hein, trois foyers rassemblés maximum, ça c'est pour le Royaume-Uni.
Bonjour Isabelle Horry.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Bruxelles. Les réveillons, les déplacements, les retrouvailles en famille, ce sujet inquiète toute l'Europe.
Oui, et dès le mois dernier, la présidente de la Commission européenne et son conseiller scientifique avaient d'ailleurs été les premiers à demander un Noël différent. Ce qui les inquiète, c'est vraiment le risque d'une troisième vague sur tout le continent. Même les 27 dirigeants en ont parlé lors de leur visioconférence la semaine dernière. Comment éviter les erreurs de l'été dernier? À quel rythme lever les restrictions? Comment se coordonner? Bruxelles devrait présenter des recommandations la semaine prochaine. Mais voilà, on peut constater qu'Emmanuel Macron a préféré prendre les devants.
Donc pour la coordination, on repassera. Isabelle, comment nos voisins abordent cette période ?
Souvent en envisageant de limiter le nombre de ceux qui pourraient se réunir. Aux Pays-Bas, les scientifiques recommandent 8 convives maximum venant de la même région, 8 aussi en Italie, mais avec distanciation sociale, et c'est 6 en Espagne. En revanche, ici, en Belgique, aucune perspective. Le Premier ministre est resté ferme ce week-end à la télé.
Je comprends que pour des gens qui sont seuls, que ça va être une période extrêmement difficile, mais on demande d'encore passer ce cap. Personnellement, je serais quand même extrêmement prudent, et moi aussi, voilà, notre fête de Noël, on le fera avec ma femme et mes deux fils.
Enfin, en Allemagne, la chancelière négocie aujourd'hui avec les régions. On évoque des vacances avancées pour permettre une mini-quarantaine avant les repas de famille.
Isabelle Horry, en direct de Bruxelles pour Europe 1.
Bonjour Mathieu Charrier.
Bonjour.
Le spécialiste ciné d'Europe 1. Nous sommes mercredi et d'habitude, Mathieu, vous nous livrez vos conseils sur les sorties de la semaine.
Sauf que voilà, les salles restent fermées au moins jusqu'au 15 décembre. On va s'arrêter avec vous sur cette industrie du cinéma face au confinement successif. D'abord, Mathieu, on imagine que ce calendrier annoncé hier va générer de nouveaux reports.
Et oui, toutes les sorties de gros films sont encore repoussées et on craint désormais l'embouteillage à la réouverture des salles. Hier encore, Gaumont me faisait savoir que le nouveau SS-117, vous savez, très attendu, prévu pour début février, eh bien, il est redaté au 14 avril. Idem pour Les Tuches numéro 4 qui devait sortir pour Noël, repoussé en février, et chaque jour les communiqués tombent comme ça. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'y aura pas assez d'écrans de cinéma en France pour que tous ces films sortent. Quand les salles rouvriront, les plus petits films vont en pâtir. Et puis, encore faut-il, même pour ces films très attendus, que les gens se déplacent de nouveau en salle quand ils le pourront. On l'a vu lors du premier déconfinement, la fréquentation plafonnait en moyenne aux alentours du million de spectateurs par semaine. C'est 4 fois moins qu'avant la crise.
Et ils vont devenir quoi, ces films qui ne sortiront pas en salle ?
Eh bien, beaucoup vont finir sur vos plateformes. Netflix, Prime Video, Disney+, Apple TV, eux attendent, tapis dans l'ombre, le portefeuille plein, de pouvoir les racheter pour satisfaire leurs abonnés. Alors, quand ils les produisent, c'est facile. Vous prenez Soul, par exemple, le dernier Pixar produit par Disney. Il devait sortir en salle à Noël, vous le retrouverez sur Disney+. Mais c'est aussi le cas de films produits par des studios historiques et ensuite achetés par ces plateformes. On a vu le polar d'Olivier Marchal, Bronx, tous ses précédents films étaient sortis en salle, et bien le dernier, directement sur Netflix. Sofia Coppola, récompensée aux Oscars, à Cannes, son dernier film, sur Apple TV. Mmh. Et la liste ne fait que s'allonger, d'autant qu'en parallèle, on continue de tourner des films. En France notamment, il y a une douzaine de tournages en ce moment, et il y a plus de 80 films qui sont en train d'être finalisés.
Alors ça c'est intéressant, on continue les tournages, notamment celui du film Le Torrent, qui est réalisé par Anne Leny, avec notamment José Garcia au casting.
Alors comment tourner en temps de Covid ? Là aussi, ça change beaucoup de choses. Écoutez le reportage d'Angèle Châtelier.
Dis-moi Gaël, je t'ai donné une fiche pour le PCR de demain matin. Il y a une infirmière qui vient de 9 à 11.
Paul est technicien sur le tournage, responsable du matériel. Mais en ce moment, il s'improvise assistant infirmier et alpague les autres membres de l'équipe avant la pause déjeuner pour leur rappeler de se faire tester. Ils sont une quarantaine dans les montagnes silencieuses du massif des Vosges. Il y a d'abord eu un PCR avant le tournage. Maintenant, c'est un tous les 15 jours. Il ne faut prendre aucun risque, car difficile de respecter le mètre de distance quand on est caméraman ou preneur de son. D'ailleurs, tout le monde pense porte son masque. Même la star du film, José Garcia, le garde jusqu'au tout dernier moment.
Action !
Il le retire pour jouer sa réplique.
Tu crois que les gendarmes vont me croire ?
Oui, c'est très bien comme ça.
L'équipe nous empêche même d'approcher les acteurs, car si 3 personnes sont testées positives, le tournage s'arrête. Et ce protocole Covid a déjà coûté 10 000 euros à la production. Il a fallu, faute d'hôtel, trouver de nouveaux logements, acheter des masques, du gel. Amaury Serriel, le directeur de production, a tout réorganisé en 15 jours.
À un moment, il faut partir. Quoi qu'il arrive, il faut y aller. On avait les acteurs, on avait les décors. Puis pas d'interdiction.
Fin du tournage en décembre pour une sortie du film espérée dans un an.
Coupé, merci.
Mathieu Charrier, alors pour conclure, s'il y a trop de films et moins de spectateurs en salle, on imagine que c'est l'ensemble du modèle économique du cinéma qui va devoir s'adapter.
Eh oui, d'autant qu'on l'a vu, hein, pendant le confinement, les plateformes sont devenues incontournables. Alors maintenant, le ministère de la Culture veut les mettre à contribution en leur imposant de financer la création française de films, de séries, à hauteur de 20 ou 25% de leur chiffre d'affaires réalisé dans notre pays. Ça représenterait quand même une manne supplémentaire de 300 millions d'euros par an. Donc oui, le modèle économique est en train de changer. La Covid a accéléré le processus. Il faut savoir qu'en échange, ces plateformes réclament évidemment
notamment le droit de diffuser plus rapidement un film sorti en salle à leurs abonnés. Les discussions sont toujours en cours, mais le milieu du cinéma peut difficilement se passer de cet argent.
Le dossier de la rédaction ce matin, le cinéma français en péril ou en réinvention. Merci Mathieu Charrier et merci Angèle Châtelier.
Et on retiendra que le nouveau 1617, c'est le 14 avril. J'ai retenu, j'ai noté la date. Des nouvelles des États-Unis ce matin. Deux présidents, deux agendas.
Oui, Joe Biden qui commente le gouvernement qu'il a commencé à constituer. On en parlait hier, ici même, avec le francophone Anthony Blinken. Cette équipe montre que l'Amérique est de retour, explique Joe Biden. Elle est prête à guider le monde, faire face à ses adversaires et ne pas rejeter ses alliés.
Et du côté de Donald Trump ?
Agenda en apparence plus léger mais très traditionnel. À quelques heures de la fête américaine de Thanksgiving, il s'est adressé ainsi à une dinde prénommée Maïs. Maïs, en cet instant, je te gracie pleinement.
Avouez que vous rêviez de le faire, François Giffrier.
Des millions de dindes vont être dévorées sur les tables des Américains ce week-end. La tradition veut que le président gracie et donc sauve la vie à l'un de ses animaux chaque année.
Autre genre d'oiseau, les footballeurs du PSG qui ont sauvé leur avenir, eux aussi, hier soir en Ligue des Champions.
Oui, alors tout juste, victoire 1-0 contre Leipzig. Les journalistes n'ont pas manqué de le faire remarquer au coach parisien Thomas Tuchel, l'allemand. Celui-ci s'énerve, en perd un peu sa grammaire française, mais connaît tout de même au moins un gros mot.
J'ai l'impression que vous demandez toujours les mêmes choses. Et c'est toujours les mêmes questions. Vous pouvez poser cette question dans la vestiaire, si vous avez des couilles de faire ça. Parce qu'il y a des joueurs, ils sont morts. Morts. Ils ont donné tous physiquement. Et je suis fatigué de répondre toujours des attentes de vous comme ça. Fatigué,
Thomas Tuchel, hier soir au micro Europe 1 de Julien Froment. Et puis, plus profitable qu'un pari sportif sur le PSG, misé sur l'action de Tesla qui, en pleine année de confinement, on a très peu circulé. Elle a grimpé de 560% depuis janvier. Le constructeur électrique vient de dépasser les 500 milliards de dollars en bourse, faisant d'ailleurs de son patron Elon Musk le deuxième homme le plus riche du monde, devant Bill Gates et tout de même derrière Jeff Bezos d'Amazon.
Merci François Geffrier. Vous êtes sur Europe 1, il est 8h12.